Marco Biagioni, président, directeur général de la société Aéropropulsion.
Alors, quel a été votre parcours d'étudiant?
Alors, après le lycée, puis l'université d'ingénierie, je suis diplômé en ingénierie nucléaire à l'école d'ingénierie de Rome. J'étais diplômé en 1984.
Quel a été votre parcours professionnel?
Alors, je suis un boomer, je suis né dans les années 60, donc j'ai suivi toute la course à l'espace des années 60. Et donc, j'étais passionné des fusées. J'ai fait devenir fou mes parents avec toutes les fusées que j'ai construites quand j'étais petit. Bon, après, lors des études universitaires, j'ai un peu abandonné l'espace pour m'adresser vers l'énergie. Mais après, en 1986, je suis rentré un peu par hasard à Avio. Et depuis, j'ai toujours travaillé dans l'espace, dans la propulsion spécifiquement. J'ai commencé en étudiant les performances des moteurs à propergol solide. Après, j'ai fait des calculs structuraux. Bon, j'ai eu tout un tas de différents rôles. Et à part un passage de 4 ou 5 ans, 4 ans à aéropropulsion entre 2001 et 2005, je suis resté toujours à Avio. Jusqu'en 2019, où effectivement je suis devenu le directeur général de la société Europropulsion.
Avez-vous une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiant ou professionnel qui vous a influencé pour vous orienter sur une carrière liée au spatial?
Alors, j'ai eu plusieurs rencontres. Ces domaines, plein de personnes passionnées. Qui sont passionnés de l'espace, qui sont passionnés du produit et qui m'ont appris beaucoup de choses. Comme je disais, c'était une petite passion de jeunesse, l'espace et l'aéronautique. Donc, quand je me suis trouvé dans ces milieux-là, c'était un rêve devenu réalité. Surtout dans un pays comme l'Italie, dans lequel l'opinion publique ne connaissait pas trop les activités que l'Italie faisait au sein de l'Europe dans les domaines des lanceurs. Au point que quand je disais, la première fois que je rentrais à Avio, je disais que je travaillais sur les fusées, mes copains, mes amis me disaient, bon, ça rigolait, qu'est-ce que tu fais vraiment? Donc, en fait, effectivement, je dois remercier toutes les personnes et tous mes collègues que j'ai rencontrés parce qu'ils m'ont toujours appris des choses intéressantes.
Pouvez-vous nous présenter Europropulsion?
Alors, Europropulsion, c'est une société commune entre la société française Ariane Group et la société italienne Avio. Europropulsion a été créée en 1992 pour mettre ensemble les compétences de la branche propulsion d'Ariane Group avec Avio et dans le but de développer, à l'époque c'était les plus grands moteurs jamais à propulsion solide jamais réalisés en Europe, c'était les MPS d'Ariane 5. C'était un succès. Europulsion a suivi après toute la production de ces moteurs-là. Et comme c'était un succès, cette activité commune, Europulsion, elle s'est vue confier le développement du P80, qui est le moteur du premier étage de Vega, et ensuite le développement du moteur P120, qui sera le premier étage et de la fusée Ariane 6 et de la fusée Vega C.
Actuellement, développez-vous un ou deux projets au sein d'Europropulsion, des projets phares en fait,
Alors,
importants.
les projets phares, comme je disais, c'est le P120C, qui est, comme je disais, un moteur qui équipera les deux fusées européennes Vega C et Ariane 6. On a pratiquement terminé le développement. En fait, on est prêt pour le lancement des qualifications de deux lanceurs qui, normalement, auront lieu cette année. Et on espère de commencer à travailler sur une version améliorée, plus performante du P120C, qui s'appellera P120C Plus, qui aura plus de propergol et qui donnera plus de performance à la fusée Ariane 6, notamment vis-à-vis du marché des constellations.
Pouvez-vous nous présenter le principe de fonctionnement des propulseurs d'appoint et les différentes étapes d'assemblage?
Alors, un propulseur à propergol solide, c'est un réservoir. C'est un réservoir qui va être rempli. Un réservoir qui autrefois était constitué en acier, avec une structure en acier, qui aujourd'hui est plutôt réalisée en fibre de carbone, dans lequel on coule On coule un propergol en phase liquide. Le propergol se solidifie. En fait, il crée une forme particulière qui est étudiée pour donner la loi des poussées qui est nécessaire au bon fonctionnement du lancer. Et ensuite, cette structure chargée de propergol, dans cette structure, on assemble la tuyère, qui est ces petits morceaux là, et un allumeur. Alors, lors de l'allumage, les moteurs, le bloc de propergol développe des gaz très chauds qui sont accélérés à travers la tuyère et qui, après, pour les principes d'action et réaction, donnent la poussée qui fait décoller le lancer.
C'est des températures allant de l'ordre de combien?
C'est des températures à l'intérieur de la chambre de combustion de l'ordre de 2700 degrés. Donc, c'est des gaz très chauds. Et la structure doit résister non seulement à la pression interne, mais aussi doit être protégée avec une protection thermique qui permet effectivement de garder une température très bas à l'extérieur pour éviter d'endommager la structure, avec une température de 2700 degrés à l'intérieur. Alors, ça, c'est les moteurs. Ensuite, évidemment, un moteur ne fait pas un étage, dans le sens qu'après, pour attacher le moteur à la fusée, il faut des interétages ou bien des jupes, comme dans les cas d'Ariane 5. Et après, il faut rajouter tous les câbles qui servent pour acheminer les commandes du lanceur à l'étage. Et ensuite, la tuyère elle-même, elle est équipée d'un système de servo-gouverne qui permet effectivement de guider les lanceurs. Le reste, c'est des chaînes pyrotechniques qui permettent effectivement l'allumage du moteur et la séparation de l'étage quand il a terminé sa mission. Et Revolution, la compétence de Revolution, en fait, Revolution a deux têtes. Un établissement ici à Suresnes, dans lequel il y a les fonctions de gestion, d'ingénierie, d'administration. Donc, c'est effectivement la partie de Revolution qui gère le développement des programmes, disons, en accord avec les maisons mères. Et un établissement à Kourou, dans lequel on assemble les étages. Donc, Revolution est une société qui assemble l'étage d'appoint d'Ariane 5, il assemblera l'étage d'appoint d'Ariane 6, et notamment le premier étage de Vega et le premier étage de Vega 6. Donc, Revolution travaille sur les deux lanceurs européens.
Alors aujourd'hui, avec l'arrivée et le développement du New Space en Europe, est-ce que le savoir-faire technique d'Europropulsion est utilisé sur la nouvelle génération des petits lanceurs?
Alors, le travail de Europropulsion et l'implication de Europropulsion dans les programmes dépend surtout de l'implication des actionnaires de Europropulsion, donc à la fois Ariane Group et Avio, dans ce programme. L'avenir de Europropulsion dans les petits lanceurs dépendra effectivement de la volonté des actionnaires d'impliquer ou non Europropulsion. Certes, Europropulsion, c'est une réalité d'un travail commun qui a fait un succès depuis plusieurs années, donc c'est tout intérêt des actionnaires de l'impliquer dans les développements sur lesquels effectivement on peut travailler ensemble, en mettant ensemble des compétences de part et d'autre, non seulement des compétences techniques, mais aussi une façon de travailler, parce que Revolution étant une société 50% italienne et 50% française, effectivement on arrive à obtenir les mieux d'une différence de mentalité ou de mode de travailler. Ça peut joindre un peu plus de pragmatisme qui vient disons, des salariés qui sont détachés d'Italie, et une rationalité, un travail plus structuré des détachés qui vient de la société française. Donc cette compétence, effectivement, pourrait être utile dans le développement futur.
Alors, que conseillez-vous aux jeunes filles et aux jeunes garçons intéressés par les sciences en général et le spatial et l'aéronautique en particulier?
Alors, les conseils, suivez vos rêves, parce que c'est vraiment un domaine qu'on travaille dans les lanceurs, qu'on travaille dans les satellites ou dans les applications terrestres de l'espace, c'est un domaine passionnant dans lequel on développe des produits qui sont à la frontière technologique. Donc effectivement, on travaille sur des disciplines qui sont hyper intéressantes et on rencontre des personnes de tout pays d'Europe, ce qui permet un échange intéressant, même du point de vue humain. Donc c'est une bonne choix et je répète, suivez vos rêves.
Alors, pour finir, les associations scientifiques et techniques sont-elles pour vous une nécessité au sein de notre société et pourquoi?
Alors, les associations sont très importantes pour relier l'industrie à la société, donc aux personnes de tous les jours. Ça permet effectivement de faire comprendre à la personne, à une personne qui n'est pas dans ce domaine-là, quel est l'intérêt de travailler et effectivement d'investir de l'argent dans ces domaines. Et notamment, c'est pour cette raison que j'ai accepté avec enthousiasme la tâche d'être délégué général de la communauté de Villaria.
Alors actuellement, vous êtes le délégué général de la communauté des villes d'Ariane, c'est-à-dire la CVA. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette association?
Alors, la CVA, c'est une association à but non lucratif européenne qui regroupe la plupart des acteurs industriels et institutionnels qui travaillent dans les domaines des fusées européennes, Ariane et Vega. Elle est née carrément en 1998 quand il n'y avait que la fusée Ariane, d'où le nom Communauté des villes Ariane, mais aujourd'hui, effectivement, elle s'adresse aussi à tous les domaines des lanceurs européens. Et son objectif fondamental, c'était effectivement, comme je disais, de relier les industries aux autorités publiques. Elle a 20 ans, plus de 20 ans. Elle a eu 20 présidences tournantes. Et comment ça marche, cette idée de présidence tournante? Chaque année, le bureau, qui est le membre, l'élément décisionnel de la CVA, décide de confier la présidence de l'année suivante à une des villes et à son partenaire industriel. Et l'année de présidence, la ville organise un certain nombre d'événements autour, effectivement, du domaine des lanceurs. Événements éducatifs, conférences, et ainsi de suite.
Alors aujourd'hui, quels sont les challenges de la CVA au sein de l'Europe?
Surtout, comme je disais, le premier, c'est effectivement expliquer aux citoyennes et aux élus des différentes villes quelle est l'importance des activités spatiales qui se développent dans leur territoire et pourquoi surtout ces activités sont importantes pour les avancées technologiques, pour les retombées en termes de travail et pour la vie de tous les jours. Parce que n'importe quelle, aujourd'hui on ne se rend pas compte, mais n'importe quelle application spatiale a un impact sur la vie de tous les jours. Oui, par exemple, non, mais je pense au téléphone portable ou bien à la navigation. Hein. Aujourd'hui, ça semble hyper facile de rejoindre n'importe quel point d'une ville, et ça, c'est grâce aux satellites. Après, un deuxième objectif de la CVA, c'est de motiver nos jeunes. En fait, il y a des programmes éducatifs qui permettent d'approcher les jeunes, partant des jeunes, des adolescents jusqu'aux jeunes adultes, d'approcher les jeunes aux activités scientifiques en général et spatiales en particulier. Et sur ça, effectivement, la CVA propose un certain nombre de programmes éducatifs et conférences, effectivement, dans ce but.
Alors, quels sont les programmes éducatifs de la CVA?
Alors, il y a trois programmes phares qui sont importants pour la CVA. Il y a une summer school, donc c'est un certain nombre de semaines où des jeunes en âge universitaire sont regroupés pour développer un certain nombre d'activités, comme je disais, d'activités dans le domaine des lanceurs, d'apprentissage, des expériences dans le domaine des lanceurs. Et c'est une école, elle aussi tournante, dans le sens que chaque année, en fonction de la présidence et en fonction de l'organisation de la CVA, ça se développe dans une ville différente. Et ça aussi, ça permet de promouvoir l'échange entre les jeunes des différents pays. Le deuxième, c'est C'est des vacances scientifiques. Là, ça s'agit d'une semaine des jeunes adolescents, dans ces cas-là. Donc, c'est des adolescents qui viennent des écoles. Et là, c'est une étape, si on veut, un peu plus anticipée par rapport à l'âge des jeunes, pour les approcher aux aspects scientifiques. Ça devient quelque chose de plus général, moins à peu près assez au lanceur. Ils font des expériences avec des micro-fusées, ils font des expériences, par exemple, avec des systèmes de programmation des robots. Avec les micro-fusées, ils font des expériences bien conduites, pas comme les miennes que je faisais devenir fou mes parents. Et ensuite, il y a des échanges culturels, là aussi, pour échanger expériences, mode de vie. C'est super important pour créer ça. C'est une grosse contribution à créer la mentalité européenne que dans nos jeunes, les générations suivantes à la mienne, effectivement, aujourd'hui sont beaucoup plus européennes de ce qu'on l'était il y a 20 ans ou il y a 30 ans.